Donc nous allons aborder un sujet important cet après-midi. Tout d'abord, nous allons lire un extrait de l'Épître aux Hébreux. Comme je suis en train de préparer les cours pour la rentrée et que je vais enseigner les Épîtres générales, donc l'Épître aux Hébreux, j'ai commencé à méditer sur ce livre. Et on va lire tout simplement le chapitre 1 et les quatre premiers versets. Chapitre 1, versets 1 à 4 de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait la persécution contre les chrétiens, et des chrétiens d'origine juive, on pense que ce sont des chrétiens de ce qu'on appelle la deuxième génération, c'est-à-dire que vous avez la génération des apôtres et des contemporains des apôtres qui se sont convertis à la Pentecôte et quelques années après. Puis ensuite, l'Église se répand. On pense que ce passage a été écrit malgré tout avant la destruction du Temple. Or, on sait que le temple a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Pourquoi on dit ça? Parce que, étant donné que c'est une épître qui s'adresse aux Hébreux, qui étaient retournés dans une forme de légalisme, si le temple avait été détruit, il est presque sûr, surtout parce que le sujet s'y prêtait, que l'auteur aurait fait référence à ça. Et donc, là, il y a un sous-entendu, c'est que les sacrifices sont encore pratiqués à Jérusalem. Sacrifice d'animaux. Et donc, par crainte des persécutions, certains juifs, chrétiens d'origine juive, étaient retournés dans les synagogues ou au temple à Jérusalem et étaient influencés aussi par certains, ce qu'on appelle judaïsants, ces judaïsants qui aussi avaient semé le trouble dans l'église en Galatie. Et donc, ces personnes-là s'étaient replacées sous la loi, et donc sous un joug, parce que à partir du moment où ce n'était plus la volonté de Dieu, ça devenait un joug inapproprié. Et l'auteur va en permanence durant l'épître montrer que Jésus-Christ est supérieur à tout ce qui a pu être dit ou fait auparavant, même par Dieu, d'accord ? La loi est bonne, mais Jésus-Christ est au-dessus de la loi. Et la nation d'Israël, le peuple juif, c'est merveilleux. Mais l'Église, c'est encore plus merveilleux. Pas parce que les autres sont moins bien, mais simplement les bénédictions qui sont rattachées à ce que Dieu offre à son Église sont bien plus grandes. Mais comme il s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui connaissent l'Ancien Testament, il va faire référence tout au long de l'Épître à ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Et pour rebondir avec ce que tu as dit dans la présentation de la scène et dans ton introduction, nous avons un Dieu qui fait des promesses. Et pour faire des promesses, il faut parler. Vous ne pouvez pas faire une promesse à quelqu'un si vous n'utilisez pas votre bouche, d'accord ? La personne ne peut pas deviner que vous allez lui offrir quelque chose ou que vous lui promettez quelque chose. Il faut parler pour promettre. Et l'auteur là fait référence justement au fait que nous avons un Dieu. Alors ça nous paraît évident aujourd'hui, mais c'est bien de méditer sur cette vérité pour qu'elle soit fraîche dans nos cœurs, qu'on puisse être renouvelé sur cette idée-là. C'est que nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui parle. Vous savez, quand une personne est muette, elle l'est jamais totalement, puisqu'il y a le langage des signes, il y a le langage du visage, il y a l'écriture qui peut remplacer la parole, mais quelqu'un qui est muet est quand même très handicapé pour communiquer, et celui qui est à côté d'une personne muette est handicapé pour la connaître et la comprendre. En plus, on n'est pas habitué. Ceux qui sont l'entourage, les membres de famille, eux, ont appris à connaître la personne d'une autre manière que la parole. D'accord ? Mais pour nous, qui avons l'habitude de communiquer avec nos bouches et avec les sons, lorsque quelqu'un n'a pas cette aptitude à communiquer, on ne connaît pas vraiment la personne qui est muette. On ne sait pas trop ce qu'elle pense, on ne sait pas trop ce qu'elle pense de ce que nous disons. Enfin, c'est compliqué d'avoir un échange, je dirais, d'égal à égal, puisque là, du coup, la personne est handicapée parce qu'elle ne peut pas parler, mais nous, on est handicapé parce qu'on ne peut pas comprendre. Et je dirais que c'est un peu la même chose entre Dieu et les êtres humains à cause du péché. On ne peut pas vraiment être au même niveau et pouvoir communiquer correctement. En plus, Dieu est Dieu, nous ne sommes que ses créatures. Néanmoins, il y a une possibilité de communion, de découverte et de se connaître grâce à la parole, c'est-à-dire que nous avons un Dieu qui parle. Et ça, faut jamais l'oublier. Là, il est dit au verset 1, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » L'auteur, là, est en train de dire à ses lecteurs, « Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit par le passé ? Qu'est-ce qu'il avait promis ? Qu'est-ce qu'il avait envisagé ? Qu'est-ce qu'il avait prophétisé ? Nous, le peuple juif, n'attendions-nous pas le Messie, celui qui devait sauver la nation d'Israël, mais sauver le monde aussi ? N'avons-nous pas reçu les oracles de Dieu ? Est-ce que Dieu n'a pas parlé ? Alors évidemment, intellectuellement, théologiquement, si on est chrétien depuis de nombreuses années, et parce que nous sommes convertis, nous savons que Dieu a la possibilité de parler. On parle d'ailleurs souvent, on qualifie la Bible de la parole de Dieu. Mais la question, et c'est ce qui nous permet peut-être d'évaluer un petit peu notre état spirituel du moment, est-ce que nous expérimentons cette vérité ? Dieu parle. Est-ce qu'il parle dans notre vie en ce moment ? Est-ce qu'il parle ? Il peut ne pas parler. Même quand tout va bien spirituellement, parfois Dieu garde le silence dans son amour, comme on voit en Sophonie 3:17, simplement pour créer une capacité, pour nous aider à marcher par la foi, pour tester notre confiance en lui. Donc il peut y avoir des saisons où Dieu se tait. Il peut aussi ne pas parler parce que le Saint-Esprit est éteint à partir du moment où nous allons contre sa volonté de façon durable. La voix de Dieu s'éteint dans notre âme et on n'entend plus Dieu nous parler. Alors après, il se trouve qu'on lui en veut d'ailleurs, mais ce qui n'est pas juste, simplement, nous lui avons tourné le dos. Et dans nos moments de dévotion, dans nos moments de méditation, au-delà d'une simple découverte des Écritures, ce qui est déjà bien, on a envie de connaître de nouvelles choses, on a envie d'approfondir notre connaissance des Écritures. Donc ça, c'est bien. Mais, vous savez, une relation d'amour ne passe pas uniquement par la nouveauté. Quelqu'un me disait il y a quelque temps, c'est un peu particulier en ce moment parce que c'est pas comme il y a quelques mois ou quelques années où j'étais transporté par la prédication, par ce que je découvrais dans les Écritures. Et là, je ne ressens plus la même joie, le même enthousiasme. Et je peux comprendre cela. Mais là où il y a un piège, alors nonobstant le fait que des fois le prédicateur ou l'église locale ne pourvoit pas aux besoins spirituels des individus, ça peut arriver. Mais en admettant que ce qui est communiqué au pupitre et dans l'assemblée est oint et vivant, il faut faire attention, nous, lorsqu'on écoute, à ne pas être uniquement concentré sur la découverte de la nouveauté. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la Bible et quelqu'un va citer un passage qu'on connaît, qu'on a lu 50 fois, on a entendu des prédications, et inconsciemment, des fois, on se ferme, on se met en stand-by, parce que voilà, on se dit, c'est pas pour nous, moi je sais, c'est pour les nouveaux. On le dit pas comme ça, mais on peut écouter de cette manière-là, parce qu'on connaît. Mais être, faisons attention parce que être dans cet état d'esprit, c'est un peu, je prends l'exemple d'un couple qui est une bonne image de la relation entre Christ et l'Église. Quelqu'un peut dire à l'autre, tu sais, je suis content d'être marié avec toi, je t'aime. Et celui qui écoute peut entendre ça comme quelque chose d'évident et devenir familier avec ça. Hein? En étant fiancé, lorsque la personne a dit pour la première fois à l'autre « je t'aime », oh, celui qui a entendu ça, il n'a pas dormi de la nuit après. « Ah, merci Seigneur, elle m'aime, ou il m'aime, on va pouvoir se marier. Ah, merci, c'est précieux, on va faire un poster, il m'aime, oh, on va faire des graffitis, il m'aime. » Et puis, au bout de 10 ans de mariage, tu sais, chérie, je t'aime, et oui, oui, je sais, oh, ça va. Les mots sont les mêmes. La personne qui peut le dire peut aussi le dire par comme un slogan, sans vraiment y mettre son cœur. Mais nous, nous savons que Dieu, lui, quand il continue de nous dire « je t'aime », c'est nouveau. Les compassions de Dieu, elles sont nouvelles chaque matin. C'est pas la compassion de la veille. Elle se renouvelle chaque matin, Jérémie 3, 22. Et donc, dans ma relation avec Dieu aujourd'hui, j'entends des messages, je lis ma Bible, et ce sont des choses que je connais, mais est-ce que Dieu me parle ? C'est pour ça que la connaissance du bien et du mal est un piège. Parce que la connaissance du bien et du mal engendre une forme de familiarité. Je connais. Donc je ne veux pas réécouter. Vous savez, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre en permanence. Prenons un cas, alors c'est un contexte différent, mais juste pour que vous compreniez. Et ceux qui travaillent sur le staff le savent, même s'ils ne l'appliquent pas toujours malheureusement, mais je le redis quand même, il y a des ministères dans lesquels il faut faire des checklists. Si on veut prendre au sérieux son ministère, il faut s'appuyer par la foi sur ce qui peut marcher et non pas sur soi. Parce que nous, on va faillir, forcément, on va oublier certaines choses. Et donc, si on veut vraiment être fiable et que c'est dans le domaine du possible, il y a des choses où la checklist, c'est pas possible, si le travail que l'on fait est toujours différent. Mais si c'est quelque chose de régulier, où c'est toujours la même chose, que ça soit l'accueil, que ça soit la sono, que ça soit le ménage, des choses, les checklists, ça permet de rien oublier. Et dans les avions, on sait que, et on est content de cela, les commandants de bord, les pilotes font des checklists avant de partir. Et ça nous, honnêtement, ça nous rassure. Hein? Est-ce que vous prendriez un avion, vous, si vous saviez que les pilotes font tout de mémoire? Mais ça fait 10 ans que je suis pilote. Ils ont une liste comme ça de choses à faire avant de partir, mais ils retiennent tout. Ils n'ont pas besoin de faire de checklist. Moi, je serais un petit peu dans la crainte quand même. Bien entendu, je leur fais confiance, ce sont des spécialistes. Ils ont l'habitude. Oui, mais l'habitude peut faire qu'au bout d'un moment, on oublie certaines choses. Surtout si, 2 minutes avant, ou la veille, peu importe, on a vécu des événements douloureux qui fait qu'on n'est peut-être pas assez concentré. Et donc la checklist, d'ailleurs une checklist sert que si on est concentré, quand on la lit d'ailleurs, entre parenthèses, hein, parce que pareil, si on survole, ça sert à rien. Mais avant de partir, ils sont là. Et alors plus que ça, parce qu'il y a quand même 300 personnes derrière, c'est que non seulement ils font une checklist, mais ils sont 2 à vérifier la checklist. C'est-à-dire qu'il y en a un qui énumère les tâches et l'autre l'a fait, la tâche, et dit « je l'ai fait ». C'est-à-dire qu'ils sont 2 pour pas oublier. Et chacun a la même checklist sous les yeux, parce que si la personne qui a la checklist saute une ligne, ça peut poser problème. Et donc, ils sont 2 à checker ça. Alors, vous allez me dire « oui, mais moi, je suis pas pilote d'avion ». C'est vrai. Mais toujours est-il que... pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vital de tout faire avant de partir, quand ils vont décoller. Et donc, chaque ligne, chaque règle est importante, comme si c'était la première fois. Comme si c'était la première fois. Même si la personne a réussi ses vols pendant des années, ce vol-là, c'est un vol nouveau. Et donc, il faut avoir la même concentration qu'au premier jour, quand on sortait de l'école de pilotage. voyez? Parce que si on vient me dire, ben voilà, votre enfant ou votre épouse, ils sont morts dans un accident d'avion, parce que vous savez, ça faisait 10 ans qu'il volait, le gars, et bon, voilà, et il a pas fait attention aujourd'hui. Je serais très en colère. Et donc, tout ça pour dire que la communication est importante, la parole est importante, l'information est importante, mais c'est une information pour le moment. Ça, c'est pas dans le cadre de la connaissance du bien et du mal général où on dit oui je sais, tout comme le pilote dit oui je sais, je l'ai fait 1000 fois. Oui, mais la vie là, c'est aujourd'hui. La communication, c'est aujourd'hui. Un couple qui se parle, qui sont en communion d'amour, ils se parlent maintenant. Ils peuvent pas bâtir leur relation uniquement sur le passé. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de vivre. Et vous savez, je me rappelle, j'ai un cousin qui est décédé dans un accident de moto. Il était militaire, partait au travail le matin, il a pris sa moto, il y a un accident, il est mort. Et un de ses enfants l'a pas dit en se sentant coupable, parce qu'il était vraiment petit, donc il l'a dit un peu, mais peut-être qu'il y avait un sentiment de culpabilité, je sais pas. Il a dit, ah, ce matin, j'avais pas fait un bisou à mon papa. Et il a réalisé que c'était le dernier matin où il a vu son père. Il a oublié de lui faire un bisou. Et combien de fois, des fois, on regrette certains moments qui sont passés, où on peut se parler, on peut se pardonner, on peut donner notre vie à autrui, on peut faire quelque chose. Bref, on peut parler. On peut communiquer la vie de Dieu maintenant. La vie est à la fois faite, c'est un peu comme un mur, on construit notre existence, le temps passe, et voilà, c'est vrai, on va dire, nous sommes un témoignage. Et en même temps, c'est comme si aujourd'hui était le premier jour de la création. Il faut vivre avec les deux en même temps, c'est-à-dire avoir des projets, avoir une vision, et en même temps ne pas penser qu'aujourd'hui, c'est simplement un 365e partie de l'année, et puis 3600e partie de ma décade, et puis une partie de un 15 000e de mes 50 ans. C'est pas comme ça qu'on doit penser. C'est pas une quantité négligeable. Lorsque Dieu a de la compassion aujourd'hui, c'est pas négligeable. Lorsque Dieu veut nous parler aujourd'hui, c'est pas négligeable. Parce qu'il a envie d'une relation avec nous. Et là, le problème de ces lecteurs, c'est qu'à cause de la pression, la persécution, la pression des judaïsants, etc., ils ont écouté d'autres voix. Ils ont écouté la voix du monde, la peur de mourir, on peut comprendre, mais ils ont écouté cette voix-là, mais ils ont oublié d'écouter la voix de Dieu, qui est plus importante. Et donc l'auteur les ramène à cette vérité, c'est comme, en paraphrasant, c'est comme s'il disait, mais d'où vous venez ? Vous venez d'un peuple à qui Dieu a parlé. Parce que là, il dit, il a parlé à nos pères par les prophètes. C'est-à-dire que ce sont des juifs, ce sont des gens, des héritiers de la promesse. C'est un Dieu qui a parlé et qui a fait des promesses. Est-ce que nous sommes conscients du fait que Dieu honore ses promesses. Il nous fait des promesses. Et donc, il a parlé de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Là, c'est le best-seller, là. C'est plus... La loi de Moïse, c'est très bien. Les prophéties de Jérémie, c'est parfait. Ésaïe aussi, la beauté des psaumes. Oui, ils ont l'Ancien Testament. Dieu nous a parlé. Et vous êtes revenus uniquement à cette partie de cette révélation. C'est-à-dire que vous vous accrochez à cette partie-là. Mais maintenant, Dieu a parlé par son Fils. Et quand il va en parler tout au long de l'Épître, il va montrer combien Jésus, le Fils, est supérieur à tout ce qui a pu être dit et fait auparavant. Et dans ce qui a été communiqué dans l'Ancien Testament, ce qui a été communiqué au Père par les prophètes, il était question du Fils. Et maintenant, l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire le fait que lorsque Jésus est venu sur la terre, il a montré le Père. Il est en train de dire à ces gens, est-ce que vous entendez ce que Dieu vous a dit? Et aujourd'hui, lorsque je pense à Jésus-Christ, on a pris la Sainte Cène tout à l'heure. Est-ce qu'on entend ce que Dieu a voulu nous dire? La Cène peut être quelque chose aussi devant laquelle on est familier. C'est un rituel, un bout de pain. Et on boit une petite coupe. C'est périodique. Mais Dieu nous parle. Nous parle. Nous avons un Dieu qui parle. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, on oublie le son distinct de Dieu. Parce que là, le mot parler, c'est l'aléo en grec. Ça parle de son distinct, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui marmonne, hein, un bruit de fond, ou quelqu'un qui parle pas fort derrière son masque, par exemple. C'est quelqu'un qui a une voix distincte, c'est-à-dire quelque chose qui est clairement révélé, que tout le monde peut comprendre. Et il est dit après, pour parler de la parole, vous savez, il soutient tout, et vous allez voir le lien. Il est dit que par Jésus-Christ, il soutient le monde par sa parole. Je vais retrouver le verset. Au verset 3, hein, il est le reflet de sa gloire, en parlant de Jésus-Christ, et l'empreinte de sa personne, en soutenant toute chose par sa parole puissante. Là, le mot parole, c'est pas le mot logos, c'est le mot rhéma. Rappelez-vous, rhéma, tout le monde n'est pas d'accord avec cette version, cette explication, mais moi je crois à celle-là. Il y a différents, les linguistes sont pas tous d'accord là-dessus. Mais logos parle principalement de la parole de Dieu en général, c'est-à-dire la doctrine, la révélation, la Bible, d'accord? En revanche, rhéma, c'est quand vous allez lire la parole de Dieu, le logos, et à un moment donné, vous allez être touché dans votre cœur, c'est-à-dire que Dieu va vous parler personnellement, c'est un rhéma. Et c'est ce mot qui est utilisé en Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, elle sort pas d'une page, elle sort pas du papyrus ou du papier ou d'un livre. Elle sort de sa bouche. C'est quelque chose qui est communiqué à moi précisément. Et si je n'entends pas cette parole, je vais avoir du mal à vivre. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, lorsqu'il est dit que Dieu soutient le monde par sa parole, c'est toujours le mot rhéma. C'est-à-dire que nous lisons le Logos en Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu dit. Donc il a dit des choses, mais ça c'est dans le passé. Il a créé le monde dans le passé. Ça, et pour nous, c'est le Logos. Nous savons ce qui s'est passé par la création du monde en Genèse. Grâce à Genèse, on a une idée de ce qui s'est passé. Mais le monde aujourd'hui est maintenu pas par le logos qui a été communiqué à nos oreilles et qui est inscrit dans un livre, et c'est quelque chose qui s'est passé il y a des millénaires. Non, le monde est maintenu par le rhéma de Dieu, c'est-à-dire que c'est la volonté que le monde existe encore, c'est-à-dire que Dieu continue de parler. Voyez, c'est-à-dire que le monde aujourd'hui est maintenu par la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu, c'est à la limite c'est possible avec lui parce qu'il peut faire plusieurs choses en même temps, mais c'est comme s'il disait je veux que le monde soit, je veux que le monde soit, je veux que le monde soit. C'est-à-dire qu'il parle en permanence. La création est soutenue par sa parole. De la même manière, Dieu soutient la relation qu'il a entre lui et nous. En disant, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour éternel. Il va nous dire, j'ai pardonné tes péchés, j'ai pardonné tes péchés, j'ai pardonné tes péchés, j'ai pardonné tes péchés. C'est que Dieu m'a pas pardonné il y a quelques années, puis aujourd'hui, il faut que je me rachète une conduite. Dieu continue de m'aimer. Dieu continue de me pardonner. Le sang de Christ me purifie de tout péché. C'est-à-dire, le sang de Christ me purifie de tout péché, le sang de Christ me purifie de tout péché, le sang de Christ me purifie de tout péché. En permanence, le sang de Christ me purifie de tout péché. Et donc, ça purifie ma conscience, et ça purifie ma conscience. C'est que Dieu a agi, c'est pas un Dieu qui a travaillé 6 jours et le 7e il se repose. Il y a cette vérité-là, spirituellement parlant, le repos de Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Dieu est inactif. Voyez, il a agi pour que les choses soient, mais il les maintient quand même. Il continue de maintenir les choses. Et le repos nous parle simplement du fait qu'il est content de son œuvre. Donc au bout du 6e jour, l'homme est créé à l'image de Dieu, Dieu est content, il se repose, c'est parfait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait plus rien. Pourquoi ? Parce qu'il maintient les choses par sa parole, par sa volonté. Et de la même manière, il maintient sa communion en agissant. Il n'est pas un Dieu qui a dit « Bon, tu t'es converti il y a 30 ans, je t'ai déjà dit que je t'aime, j'ai pardonné tes péchés, si tu n'as pas compris, tant pis pour toi. » Et voilà. Non, on a le Saint-Esprit. On a la vie de Dieu en nous. C'est pour ça que, d'ailleurs qu'il y a le Dieu, le Saint-Esprit peut se réjouir en nous, il peut être attristé, il peut être éteint. Il se passe quelque chose. Par le Saint-Esprit, Dieu veut nous parler. D'ailleurs, j'avais fait un message il y a quelques années sur la doctrine du Saint-Esprit, sur plusieurs messages, et on avait vu ensemble que tout ce qui concerne la relation entre Dieu et le croyant dans le Nouveau Testament, principalement dans le livre des Actes, mais même dans les Épîtres, on voit que c'est par le Saint-Esprit que ça se passe. Parfois, dans le livre des Actes, Jésus intervient, mais la plupart du temps, le Saint-Esprit conduit Paul, ils ont été poussés par l'Esprit, le Saint-Esprit leur a communiqué, il y avait la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit parle en nous, il communique. La question est-ce que Dieu est devenu comme ça dans ma vie ? Vous savez, on va lire un extrait d'Ésaïe 44. Ésaïe 44, à partir du verset 9. Ésaïe 44, verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue. Vous voyez cet objet-là, il y a des yeux qui sont dessinés, mais il n'y a pas la vue. Ce bout de bois ne voit rien. Ni l'intelligence, afin qu'il soit dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou fond, du verbe fondre, une idole, pour n'en retirer aucune utilité ? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes, qui se réunissent tous, qui se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Et regardez, là, l'explication de tout le passage, elle est principalement dans ces deux versets-là. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon, hein, le forgeron. Il fabrique une hache, il a besoin de la chaleur pour faire fondre le métal. Il travaille avec le charbon et il la façonne, cette hache, à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Donc il fabrique une hache, un outil utile qui tranche, qui nous permet de faire plein de choses. Mais regardez la suite. Mais a-t-il faim ? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau ? Le voilà épuisé. C'est-à-dire que le forgeron, il peut fabriquer une hache et c'est très bien. Fabriquer une idole, c'est pas bien, mais là, il prend même l'exemple d'une hache. Mais cette hache peut être très bien fabriquée, elle peut être utile dans plein de domaines. Mais si le forgeron ne mange pas et ne boit pas, il va pas boire la hache, il va pas manger la hache, et il va mourir quand même. Il peut avoir le plus bel objet qui soit, le fondement de sa vie, c'est boire et manger. D'accord ? Pour continuer éventuellement de fabriquer des haches. Et donc ensuite, nous allons lire tout ce qui concerne les idoles, et l'idée c'est celle-ci, c'est que les gens font plein de choses, mais ça ne remplace jamais spirituellement ce qui correspond au pain et à l'eau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nourris spirituellement, et ils ne sont pas abreuvés spirituellement. Et donc, il est dit ensuite, verset 13, « Le charpentier, étend le cordeau, fait un tracé de crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. » Vous voyez, ça j'ai ramené ça de je ne sais plus quel pays, je crois que c'était le Burkina Faso. C'est dans ma maison. C'est pas une idole à mes yeux, hein, je vous rassure. Mais pour certains, ça peut être une idole. Donc, pour qu'elle habite dans une maison, il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins et la pluie le fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu. C'est-à-dire qu'avec ce bois, il se chauffe, il fait cuire à manger, mais avec le même bois, il se fabrique un dieu qui n'a pas la vue, qui n'a pas d'intelligence. Alors évidemment, nous sommes, nous, héritiers d'une culture judéo-chrétienne où l'idolâtrie, apparemment, officiellement, n'a pas sa place, ce qui est faux parce qu'aller dans les campagnes et vous allez vous apercevoir que les sorciers, les marabouts, les rebouteux, ça existe aussi et même en ville. Alors, mais c'est vrai qu'on va peut-être pas adorer ça. Mais pour certaines personnes, enlevez-leur cet objet et il n'y a plus de vie. Et cet objet a ses vertus. Ce téléphone portable a ses vertus. C'est même plus un téléphone, c'est un ordinateur en réalité, hein, parce que le téléphone, il sert qu'accessoirement en tant que téléphone. Il sert plus comme ordinateur ou autre chose. Mais vous enlevez cet objet à certaines personnes, ils n'ont plus de vie. Mais néanmoins, la nourriture et l'eau spirituelle n'est pas là-dedans, de toute manière. Elle est en Dieu. Elle est en Dieu. Ce qui fait que des choses qui peuvent être utiles, là, il donne l'exemple du bois pour manger, pour se nourrir, pour fabriquer des objets, c'est très bien. Mais quand ça devient une idole, et qu'en fait on l'utilise pour autre chose, qu'est-ce qui se passe? Ça remplace Dieu. Et donc, ce qui est permis par Dieu, ou même initié par Dieu au départ, parce que ça a été changé, l'objet a été modifié, l'objectif est modifié, ça devient une idole dans nos vies. Le mariage peut devenir une idole. Nos enfants peuvent devenir une idole. L'argent peut devenir une idole. Notre appartement, nos maisons peuvent devenir une idole. C'est-à-dire que on construit sa vie, on se nourrit et on s'abreuve de choses au bout d'un moment et il y a un mur de matérialisme, il y a un mur de cupidité pour certains, un mur de perversion chez d'autres. Parfois, c'est une mosaïque. Toujours est-il qu'il n'y a pas un mur de doctrine. Il n'y a pas le mur de la vérité. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens sont assoiffés et affamés. Parce que le seul qui peut nourrir ce qui est au fond de moi, le seul qui peut le faire, c'est celui qui parle, mon Créateur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin de mon Père céleste, j'ai besoin qu'il me parle. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nourrir ce qui est au plus profond de moi. Au bout d'un moment, tout ce que j'ai, et ce sont peut-être des choses bonnes, si je les mets à la place de Dieu, je vais dépérir spirituellement. Et c'est pour ça que, d'une manière, il est évident que ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, Dieu parle pour que les gens réalisent un petit peu que le fondement de leur existence n'est peut-être pas ce que ça devrait être. Les gens peuvent plus voyager, il y en a qui n'arrivent pas à accepter ça. Il y en a qui sont limités dans les déplacements, ils n'arrivent pas à accepter ça. Il y en a qui, voilà, dans le domaine des arts, voilà, on idolâtre tellement l'art aujourd'hui. Ben, l'art est très limité, là, on peut pas faire grand chose aujourd'hui. Ça reprend un peu, mais des tournages ont cessé, les films ne sortent pas. Les représentations sont limitées, c'est-à-dire que tout ce qui construit, et ces choses peuvent être bonnes, enfin, ça dépend ce qui est communiqué ou véhiculé, mais si vous voulez, les gens, comme on est rentré dans une civilisation dite des loisirs, lorsqu'on retire les loisirs, qu'est-ce qui reste? Et les gens sont désemparés, parce qu'ils réalisent que peut-être le fondement de leur existence ne repose pas sur le roc, mais sur du sable. Et quand la tempête arrive, vous connaissez l'histoire. Et donc, quand on continue ce passage, il en fait également un dieu qu'il adore, il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, et avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie, il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme ». Et avec le reste, il fait un dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Beaucoup de gens cherchent le salut dans des choses ou en des personnes qui ne les sauvera pas. Ce sera comme ça dans leur vie. Le silence au fond de leur âme. Un dépérissement. Parce que nous avons besoin d'entendre de Dieu. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui... Je vais sortir tout à l'heure dans la rue. S'il y a quelqu'un qui vient vers moi, qui me connaît pas, je le connais pas non plus, mais la personne me voit, dit, ah, je sais pas pourquoi, mais je vous aime. On peut entendre des choses pires, mais honnêtement, ça va pas changer ma vie. Parce que, aussi sincère que soit cette personne, je la connais pas. Donc, ça réchauffe pas mon cœur tant que ça. Après, vous avez quelqu'un, je sais pas, qui vient pour la première fois dans cette salle, je pense à vous, par exemple, vous m'écoutez, etc. À la fin du culte, vous n'êtes pas obligé de le faire à la fin, mais vous venez vers moi en disant, ah, ce que vous avez dit, ça m'a vraiment fait plaisir, ah, je sens de l'amour en vous, merci beaucoup. Là, ça fait un peu plus plaisir parce que il y a déjà un début de connaissance. Par contre, si c'est quelqu'un de proche que je connais et que j'aime moi aussi, si cette personne-là me dit « je t'aime », alors là, ça prend encore plus d'importance. Quelle est l'importance de cette phrase « je t'aime » lorsqu'elle vient de Dieu? Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Est-ce que c'est dit par une personne qui, à la limite, ne parle pas souvent, voire jamais? Donc, ça nous fait pas grand-chose. Oui, je sais que Dieu m'aime. Est-ce que notre Dieu devient presque un inconnu? Ou alors, on se réjouit et on se dit, aujourd'hui, Dieu m'aime. Aujourd'hui, Dieu m'aime. Vous savez, j'en ai parlé à l'étude biblique la semaine dernière chez Val. Et j'ai vu il y a quelque temps un film qui vaut ce qui vaut, il y a des bonnes et des mauvaises choses, mais il y a une phrase qui a retenu mon attention. Et je mets ça en relation avec le fait que Jésus nous dit « Je vous appelle plus serviteur, mais ami ». Quelle belle phrase! Quelle belle phrase! C'est Dieu qui nous dit ça. Je t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Ami de Dieu. Et dans ce film, il y a cette phrase qui est prononcée lors d'une oraison funèbre, où l'acteur dit « Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. » C'est une sacrée phrase, ça. Sous-entendu, il nous connaît bien, donc il connaît nos défauts. Mais il nous aime quand même. Ceux qui ne sont pas nos amis, et qui découvre nos défauts, il s'éloigne. Mais un ami, c'est quelqu'un qui nous connaît bien et qui nous aime quand même. Ça, c'est notre Dieu. Il nous connaît très bien. Il connaissait Pierre et ses défauts. Et pourtant, Pierre est devenu l'ami de Dieu. Il connaissait Paul et ses défauts. Il connaît tout. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il ne se fait pas d'illusions, mais nous aime quand même. Ce qui fait que derrière moi, il peut y avoir peut-être un sentiment, quand je regarde mon passé, je peux me dire, il y a beaucoup d'échecs là-dedans, j'ai fait des erreurs. Il y a des choses que je suis en train de récolter à cause de ces erreurs aujourd'hui. Mais Dieu le sait et il m'aime quand même. Dieu m'aime plus que je m'aime. Des fois, c'est pas difficile, vous me direz. Mais vous comprenez, c'est que nous avons un Dieu qui parle, qui nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Les compassions sont toujours là. Et donc, lorsque viennent les situations difficiles de la vie, là, en l'occurrence, pour ces chrétiens d'origine juive, il y avait la pression tout autour. Et tout ça, des influences négatives, des mauvaises doctrines, tout ça avait pris la place dans leur vie de la... Ça avait pris la place de Dieu. Et donc, ce qu'ils entendaient, ce qui leur était communiqué, avait remplacé ce Dieu qui parle. Ils n'entendaient plus Dieu. Et là, il est en train de leur dire, mais Dieu a parlé à nos pères de différentes manières. Est-ce que vous avez oublié ça? Et plus encore, il nous a parlé par son Fils. Vous avez oublié ça? Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde un petit peu on revient à Hébreux chapitre 1, il est dit là au verset 3, il est le reflet de sa gloire et de l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. On va terminer juste sur cette vérité. Il a fait la purification des péchés. Le mot grec pour cette purification, c'est catharismos, qu'a engendré le mot catharsis en français. Catharismos, ça signifie purger, en fait. Vous savez, ça vous est jamais arrivé d'avoir un tuyau bouché dans votre maison, hein, et puis, surtout quand c'est dans les toilettes, hein, et que ça déborde de partout. Puis vous avez le plombier qui arrive, ou vous pouvez y arriver, j'en sais rien. À un moment donné, vous faites une action, vous entreprenez quelque chose qui fait qu'à un moment donné, le tuyau est purgé. C'est-à-dire que tout sort, ça se vide, et ça y est, tout fonctionne correctement. Eh bien, nous, c'est la même chose. On est sale de cette manière-là. C'est-à-dire que la communication entre Dieu et nous était impossible à cause du péché. On ne pouvait pas entendre de Dieu, et Dieu ne voulait rien avoir à faire avec nous, il ne voulait pas entendre de nous. Nous étions morts dans nos péchés, nous étions condamnés. Nous étions fils de rébellion, c'était fini. La communication avec Dieu était terminée. Il y a toujours un passage qui me touche, moi c'est dans, je crois que c'est, oui je suis sûr même, c'est dans Genèse chapitre 5, lorsque, vous avez toute l'histoire de la chute d'abord, hein, Genèse 3, Genèse 4, vous avez Cain et Abel, et puis après Genèse 5, c'est un peu comme une remise à niveau, un résumé de ce qui s'est passé, puis ça nous projette sur l'avenir. Après Genèse 6, vous allez avoir le déluge. Mais en Genèse 5, vous avez les descendants d'Adam et Ève, vous savez, puis il nous est parlé d'Enoch. Et il est dit que c'est à cette époque-là qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Alors, moi, je m'étais posé la question, quand ça m'avait interpellé, un jour, je me suis dit, mais c'est drôle, parce qu'avant, ils invoquaient l'Éternel aussi, puisque ils offraient des sacrifices, notamment le sacrifice de Cain, enfin, l'offrande de Cain n'avait pas été agréée. Mais en fait, là, ça nous parle, le verbe invoquer en hébreu, parle des cris, pas de désespoir, mais invoquer, oui, dans le sens de crier à Dieu parce qu'il nous paraît loin. Et l'idée, c'est celle-ci, c'est qu'au temps d'Enoch, parce que quand il y a Cain, Dieu parle à Cain, d'accord, alors qu'il a commis un meurtre, etc., mais Dieu est encore proche. Mais avec le temps, Dieu commence à s'éloigner de l'humanité. Alors il va continuer de parler à des individus précisés, de façon précise, à Noé, à Abraham, etc., et ensuite à Israël. Mais sinon, globalement, il s'éloigne à cause du péché. D'un côté, il chasse Adam et Ève d'Éden, mais lui, il s'éloigne, je dirais de façon, en termes de relation, il s'éloigne de la race humaine. C'est comme s'il s'élevait dans le ciel. Et du coup, les croyants, Enoch et la génération d'Enoch en premier, ben, ils sentent bien que l'Éternel n'est plus aussi proche et ils se mettent à crier, à invoquer, à crier Dieu. En disant, où tu es? Réponds-nous. Et Dieu nous a parlé. Il a répondu à ça, et il a envoyé son Fils. C'est-à-dire que par son Fils, le sang de Christ a purgé ce tuyau de communication qui était complètement bouché. Et donc nous, aujourd'hui, si j'entends la voix de Dieu, si j'entends Dieu me parler, Dieu me dit, j'ai fait la purification de tes péchés. J'ai tout effacé, j'ai nettoyé le tuyau, et moi je veux te parler, et je veux que tu me parles. Je veux une relation d'amour, je veux qu'on soit intime ensemble. Qu'est-ce qu'il est dit là exactement ? Il a fait la purification des péchés, il a purgé, il a nettoyé, il a tout sanctifié. Il a rendu la communication parfaite. Il n'y a plus de barrière entre Dieu et moi. Il a tout fait grâce au sang qui a été versé. Et ça, c'est une promesse qui nous est faite. C'est une parole qui nous est dite. C'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui parle. Et c'est un Dieu qui me parle à moi, qui te parle à toi et qui te dit que tu es la prunelle de ses yeux. Cet objet n'a pas de vue. Il y a des yeux qui sont sculptés, mais il n'y a pas de vrais yeux. En revanche, Dieu est esprit, mais il a la vue. Et nous sommes la prunelle de ses yeux. Et vous pouvez lire toute la Bible, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle. Les idoles, soit les idoles païennes, mais aussi les idoles dans notre société matérialiste. Notre emploi du temps peut être une idole, notre façon de penser peut être une idole. Nos pierres d'achoppement, nos échecs peuvent devenir une idole, c'est-à-dire on s'est trompé, soit, mais voilà, toute nos vies est centrée autour de cet échec. Dieu nous parle et nous dit, j'ai fait la purification de tout ça. Tout est nouveau. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature en 2 Corinthiens 5. C'est ça qui compte.